Il est 8h18 minutes. Alain, dans les sports, évidemment, les Raptors de Toronto ont réussi hier une belle victoire. Deuxième victoire dans cette série. Ils mènent
Victoire convaincante, 123-109 contre les Warriors de Golden State. Prennent les devants 2-1 dans la série finale de la NBA. Et pour parler de ce match d'hier et de cette série, de l'engouement qu'il y a pour le basketball depuis peut-être un mois au Canada, on va aller retrouver celui qui est analyste au réseau des sports des matchs de la NBA, donc de cette finale, et qui est lui-même un ancien joueur de basketball dans les collèges américains. Will Archambault, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Will, hier, c'était un match, il faut le dire, là, que les Raptors ne pouvaient pas se permettre d'échapper, par contre.
Ah non, c'est sûr et certain. On est à l'Arena Oracle en Californie. On joue contre les Warriors, les champions en titre depuis les deux dernières années. C'est sûr et certain qu'il nous manque quelques gros joueurs du côté des Warriors, mais si les Raptors perdent cette partie-là, sont défaits de 2-1 en allant à la quatrième partie. On le sait, Klay Thompson, peut-être même Kevin Durant vont revenir au jeu lors du quatrième match. Ce serait très difficile de revenir dans la série.
Tu as écrit sur Twitter hier que tu pensais que Durant ne reviendrait pas, lui, dans la finale.
Il y a comme des théories de complot en ce moment qui sont partagées sur les médias sociaux par rapport à la situation de Kevin Durant. On le sait qu'il est dans une année de contrat. Ça avait l'air un peu plus sérieux qu'on pense, sa blessure au mollet. On a vu des joueurs atterrir de la façon que Kevin Durant a atterri dans le passé et c'était vraiment le tendon d'Achille qui a été affecté. Dans son cas, peut-être que c'est le mollet, peut-être que c'est le tendon, mais ça me surprendrait pas qu'on essaie de faire un genre de Carey Price de la situation de Kevin Durant, où est-ce qu'on se dit il va revenir dans quelques jours, puis finalement deux mois après la saison, il est encore pas de retour. Donc ça se pourrait qu'on joue avec les attentes des Raptors et aussi avec la nervosité des partisans des Raptors.
Mais avec une équipe des Warriors en santé, est-ce que les Raptors ont une chance?
Les Raptors les ont battus deux fois en saison régulière. Par contre, c'est sûr que les deux équipes n'étaient pas à 100%. Tout est possible en série, mais c'est ça l'affaire. On est rendu dans les séries éliminatoires, les joueurs sont maganés, ils ont joué pendant 82 parties lors de la saison régulière. Ça fait partie de la game. C'est ça qui arrive à un moment donné quand tu joues 100 parties dans une saison incluant les séries éliminatoires pendant 5 ans d'affilée. Ça commence à être difficile sur le corps. Et on peut regarder antérieurement des séries des Warriors contre les Cavaliers, la première fois qu'ils ont gagné un championnat. LeBron James avait perdu Kevin Love et aussi Kyrie Irving. Donc, on pourrait dire la même affaire par rapport à la première victoire des Warriors. Est-ce que les Warriors auraient dû gagner ce championnat-là si Kevin Love et Kyrie Irving étaient en santé? Je ne sais pas.
Je suis pas familier avec la routine des équipes de basket, mais Steve Kerr a dit que Durant ne jouerait pas avant d'avoir participé à un entraînement complet des Warriors. Là, le prochain match, c'est vendredi. C'est quoi la routine aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un entraînement ou c'est une journée de congé, étant donné qu'à ce temps-ci de l'année, on a plus ou moins besoin de s'entraîner, là?
Ouais, en anglais, on appelle ça un walkthrough ou une pratique avec un peu moins d'intensité lorsqu'on a seulement une journée entre les parties. C'est sûr et certain que Steve Kerr va pas faire une pratique où est-ce que les joueurs vont se donner à 100% parce qu'on veut vraiment limiter l'épuisement. Dans un cas de Kevin Durant, on va vouloir le voir tirer sur le terrain, on va le faire jogger un petit peu, réchauffer et juste passer à travers les jeux, si jamais il peut vraiment jouer. Mais ça va pas être une journée de congé entre ces deux matchs-là, c'est vraiment trop important pour les deux équipes.
Vous parlez un peu des Raptors hier, parce que ce qu'il y a de rassurant dans le cas des Raptors, c'est l'attaque a été très diversifiée hier. Évidemment, Kawhi Leonard demeure le meilleur marqueur de l'équipe hier, mais ses coéquipiers l'ont bien appuyé aussi, là.
Les gars de notre groupe de basket, on a passé à l'antichambre juste avant le match des Raptors et ma manchette était « Les acolytes du Roi du Nord vont performer lors de ce match-là » et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Regarde, Danny Green, 18 points, 6 en 10 du 3 points. Kyle Lowry aussi, remarquable, 5 en 9 du 3 points, a terminé avec le match avec 23 points. Pascal Siakam a eu un gros début de match. Il s'est ralenti un peu en deuxième demi. Par contre, Comme je mentionnais, des joueurs comme Danny Green et Kyle Lowry ont pris la relève. Et ce que ça l'a fait, c'est que Kawhi Leonard n'a pas joué 42, 44, 45 minutes. Il en a joué seulement 38. Et le ballon était un peu moins dans ses mains. On lui demandait un peu moins aussi de créer pour ses coéquipiers qu'on l'a vu lors des matchs précédents. Donc, c'est sûr et certain que Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors, était vraiment heureux de la prestation de ses joueurs.
On peut pas parler à Will Archambault sans parler de Stephen Curry. Ça a été ton coéquipier à l'Université Davidson. Vous avez failli passer à l'histoire en 2008, durant le March Madness. Est-ce qu'à l'époque, vous vous doutiez que Stephen Curry, parce que si ma mémoire est bonne, il n'y a que Davidson qui lui avait proposé une bourse à l'université. Est-ce que vous vous doutiez que Curry allait devenir la grande vedette qu'il est aujourd'hui?
Ah, mais tu l'as mentionné, hein? Davidson était la seule équipe qui lui avait donné une bourse. On avait aussi Virginia Tech qui avait de l'intérêt en lui, où est-ce que son père avait joué dans le temps et il lui avait dit « Ah ben, tu pourrais être un walk-on ». Puis peut-être dans quelques années, on va donner une bourse. Steph Curry a dit, ben non, moi je vais aller à Davidson, la seule équipe qui croit en moi. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était un petit gars très humble. Son père était un des joueurs, les meilleurs tireurs de trois points de tous les temps dans la NBA. Donc on s'attendait qu'il allait être un bon tireur, un bon franc-tireur. On s'est battu avec lui en début de temps pré-saison. On se donnait à 100% lors des pratiques. Et je me souviens, je vais tout le temps me souvenir de nos premières parties ensemble. On a joué contre Eastern Michigan et aussi Michigan. Vraiment, une partie après l'autre, Steph Curry a marqué 30 points dans ces parties-là, chacune. Et ce qu'on a dit, c'est « Wow, ce petit gars-là de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces, 170 livres mouillés, il va être quand même pas pire. On a joué 3 ans ensemble. Il était un des meilleurs marqueurs de la NCAA. Et finalement, s'est fait repêcher dans le repêchage en 2009. Et depuis ce temps-là, sky's the limit.
Je disais que vous aviez failli passer à l'histoire avec Davidson. Vous êtes fait battre par Kansas, qui est une très grosse université, un très gros programme de basket aux États-Unis. Vous étiez sur le point d'atteindre le Final Four du March Madness. Est-ce que vous êtes demeuré en contact, toi et l'autre Québécois, là,
Max,
qui était avec Davidson également à l'époque?
Ben, moi puis Max, c'est sûr et certain qu'on est en contact. Il est analyste à RDS avec moi à quelques reprises.
Mais avec Stephen Curry?
Avec Stephen Curry, c'est sûr qu'en début de carrière, on se parlait probablement une fois par mois parce qu'il n'y avait pas autant de notoriété alentour de lui. Toutefois, maintenant, c'est rendu beaucoup plus difficile de jaser avec Stephen parce que quand tu fais 90 millions par année et que tout le monde veut être ton ami et que tu côtoies le président des États-Unis, Barack Obama, un de tes bons amis, c'est Drake, qui se fait tatouer son numéro sur son bras. À un moment donné, c'est un peu plus difficile de rentrer en contact avec. Par contre, quand on veut le voir après une partie, il est toujours là pour passer un peu de temps avec nous. Je me souviens, il y a quelques années, on est allé jouer au ping-pong après une de ces games de basket à Toronto. C'était quand même quelque chose de fort intéressant. Mais oui, on jase quelques fois par année, mais c'est plus comme c'était avant.
90 millions par année, si un gars fait attention, est capable de vivre avec ça, là, en faisant attention.
Ça change pas le monde, mais
comme on dit.
Ben oui, Archambault, merci. Je peux vous dire que les gars RDS, vous faites un travail, évidemment, là, vous allez dire, je chauffe dans ma trompette, mais vous faites un travail extraordinaire. Et je pense que ça paraît, il y a un engouement pour le basket comme on n'a jamais vu au Québec depuis des années. Et j'ai hâte de voir les répercussions, comme on dit souvent. Promène-toi dans les rues en banlieue là, au Québec. Il y a deux choses dans les entrées de cours, des filets de hockey et des paniers de basket.
Exactement.
Ben oui, c'est ça, exactement. Et sérieusement, ce matin, je me promenais dans mon quartier et je voyais des enfants qui driblaient leur ballon de basket. Habituellement, j'y vois avec des bâtons de hockey. Et heureusement pour nous autres, c'est le fun de voir l'impact que le basket en ce moment sur ces jeunes-là. Ils jouent d'autres sports. Et oubliez pas, regardez-nous, on est vendredi à 9h sur les ondes de RDS. Le quatrième match de la série Warriors et Raptors.
Merci
beaucoup, Will Archambault.
Merci à vous.
Salut, au revoir.
Bye.
Will Archambault, analyste au réseau des sports et ancien joueur de basketball dans la NCAA. Sur Décarie, Marc.